Fantaisiste, musical et porcine, c'est une pochette surprise. On dit qu'il est sale, qu'il est obscène, qu'il se goinfre, qu'il est borné, sans valeur, colérique et entêté. On dit qu'il est bruyant, brouillon, familier, vulgaire. Et si on n'est pas copain avec lui, on dit encore qu'il peut vous faire un sale tour. Un tour de cochon, vous l'avez compris. Tête de cochon et queue en tire-bouchon vont peupler aujourd'hui votre pochette surprise. Mais tout est bon aussi dans le cochon puisqu'il sert aussi de thème à notre émission. Il y a tant de choses à dire sur cet animal. Eh oui, un animal qui, nous allons le voir, n'a pas toujours eu mauvaise réputation.
Tu aimes le cochon ? Tout est bon dans le cochon. Viens faire le bisou. Le rose, c'est magnifique. Viens toucher le petit groin. Oh, Rocco, rejoins-nous dans la boue. C'est complètement foufou. Tu aimes le cochon? Tu aimes le cochon? Tu aimes le cochon?
Ah, mon cochon, je t'aime!
Ah. J'aime la charcuterie française.
Tu m'as tellement manqué!
C'est du bonheur en tranche. Tu aimes le cochon? Comme la lunette. Tu aimes le cochon? J'aime cela. Et toi, tu aimes le cochon? C'est vraiment trop mignon. Tu aimes vraiment le cochon? C'est du bonheur en tranche.
J'apprécie le cochon. J'apprécie le cochon. Est-ce que tu apprécies le cochon?
Ah, les belles étranges!
Est-ce que tu apprécies?
Le cochon est solide, il marche en douceur, il a bonne allure, voire même il court assez vite. Ses muscles sont tendres et longs, il est agréablement proportionné, il est actif, alerte et son poil est soyeux. Et pourtant, il se nourrit de déchets, d'excréments et se complaît dans la boue. Mais disons-le tout de suite, si le porc est l'un des animaux les plus sales qui soit, c'est normal, c'est sa nature, puisqu'il doit se vautrer dans la boue pour évacuer la sueur et faire fuir les parasites. Mais en su de la saleté, d'autres accusations pèsent sur lui. Goinfrerie, lubricité, puisque dit-on, c'est aussi le seul animal à inviter son voisin à s'accoupler avec sa partenaire. Pas étonnant dans ces conditions qu'il ait été stigmatisé par les trois grandes religions monothéistes et considéré comme impur, le cochon. Le cochon, le porc, si vous préférez, représente à lui tout seul tous les péchés du monde. Saleté, gourmandise, luxure, colère, il a vraiment tous les défauts, comme Superbus.
Faire
L'animal à groin, aujourd'hui dans Pochette Surprise sur RVR, mais quelle différence, Philippe, entre le porc et le cochon ?
Eh bien, plusieurs vocables désignent en effet l'animal à groin, comme vous dites. Porc, cochon, coche, gorée, vera, le nourrin, vous vous souvenez
De Maître Capello.
Oui, de Maître Capello, lorsqu'il remettait quelques francs dans la tirelire de l'émission, c'était les jeux de 20h, ah là là, c'était une époque, oui. Alors disons que le cochon et son cousin, le sanglier, sont les animaux sauvages de la famille des suidés, et que le porc, lui, en est la version domestiqué, voilà la différence.
D'accord, la domestication du porc qui a commencé en Europe vers 7000 ans avant Jésus-Christ. La castration des mâles et l'ablation des canines apparaissent déjà à cette époque. C'est au contact de l'homme que sa morphologie évolue considérablement, passant du statut d'animal sauvage à celui d'animal domestiqué qui n'a plus besoin de chasser pour survivre. Eh bien, il devient plus petit, ses dents s'écourtent, son groin s'affine, sa peau noire s'éclaircit pour lui donner au fil des siècles la teinte rosée qu'on lui connaît aujourd'hui.
Eh oui, il voit dès lors la vie en rose, bien sûr.
Comme Iggy Pop.
Ses bras, elle m'est parlé tout bas. Je vois la vie en rose. Elle m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon
Mais une vie qui ne va pas être toute rose pour le cochon voué aux gémonies. Alors autrefois, le mouton fournissait la laine. Vous êtes d'accord ? La
oui,
vache,
oui, oui,
la,
oui.
Vous me suivez ? La vache ou la chèvre, le lait, la poule, les œufs. Et seul le cochon, devenu le porc, était élevé pour être mangé.
Sauf pour les Égyptiens, les Juifs et plus tard les musulmans, puisque selon le Coran, la Torah et même le Lévitique, consommer un animal impur, eh bien c'est une abomination.
Sujet épineux, mais essayons d'y voir plus clair en tout cas. Voici des pistes pour éclairer cette interdiction. Les textes disent que Dieu ou Mahomet pour d'autres auraient préconisé de ne manger que des animaux qui ruminent et qui ont le pied fourchu ou le sabot fendu. Alors, le porc, là, le pied fourchu, mais il ne rumine pas, c'est ballot.
Mais qu'il se rassure, les adeptes de cette religion ne mangent pas non plus le chameau, le lièvre ou encore le daman, qui est un petit mammifère du Moyen-Orient, qui pourtant ruminent tous, mais qui n'ont pas la corne fendue.
Il faut dire également que dans le Maghreb et au Proche-Orient, où sont nées ces religions, le climat chaud est un facteur supplémentaire pour considérer les porcs comme impur.
En effet, comme ils se roulent dans la boue, eh bien, les cochons peuvent ensuite, à cause de la chaleur, développer des bactéries sur et dans leur corps, et leur chair ne se conservant pas. On la voyait donc d'un mauvais œil, d'un point de vue sanitaire.
Il faut donc se replacer dans le contexte où les textes religieux, Coran et Torah, et le Lévitique également, ont été écrits à une époque où la viande de porc procurait plus de maladies aux hommes qu'aujourd'hui.
À noter que la religion catholique n'a pas maintenu cette interdiction et que les musulmans ont apporté quelques bémols, puisqu'en cas de famine d'une part, en cas d'ignorance d'autre part, il leur est toléré d'en consommer.
Et il faut voir encore dans cette interdiction une dimension spirituelle, évidemment, à savoir que c'est pour Dieu une façon de nous tester, de nous faire obéir, de nous soumettre à des règles, quelles qu'elles soient.
Mais une légende arabe donne une autre version qui réhabilite quelque peu l'animal que nous mettons à l'honneur aujourd'hui dans Pochette Surprise, le cochon.
Une légende où il est dit que les musulmans mangeaient autrefois de la viande de porc jusqu'au jour où un grand chef et son armée, perdus dans le désert, à la recherche d'un point d'eau, rencontrèrent un cochon couvert de boue qui leur indiqua bien aimablement la rivière dans laquelle ils s'étaient vautrés.
Et après avoir imploré Allah, l'eau jaillit à la place de la boue et les hommes furent sauvés. Le chef dit alors qu'aucun musulman ne devrait plus manger de viande de porc en hommage aux petits cochons qui les avaient conduits là.
Et chauffait en même temps. Dans ce temps-là, tout le monde faisait ça, y'avait rien de mal là-dedans. Ceux qui t'inquiètent se demandaient pas comment rentrer chez eux. La liberté régnait, les hommes étaient heureux. Mais maintenant, tout a changé, l'âge d'or est révolu. Maintenant, les cochons font régner l'angoisse dans nos rues. Égare à toi si t'as le malheur de profiter de la vie. Ils surgiront de l'ombre pour t'enlever ton permis. Faut pas que les cochons pognent, non, faut pas que les cochons pognent. La main sur le goulot, le pied sur le champignon. Faut pas que les cochons pognent, non, faut pas que les cochons pognent. S'ils pognent, allez en prison. Chauffer chaud, c'est confier à Dieu le contrôle du volant. C'est targuer les forces qui travaillent à notre asservissement. C'est marcher sur un fil de fer tendu entre deux pôles. L'infini de la mort, la fraîcheur de la geôle. Mais le shérif n'aime pas que les hommes soient libres. Il les fait marcher au pas, la main sur son gros calibre. C'est le moyen qu'a trouvé cet être borné et fade de se venger de ceux qui trépent en malade. Faut pas que les cochons pognent, non, faut pas que les cochons pognent. De récidive en récidive, je défie l'oppression. Faut pas que les cochons pognent, non, faut pas que les cochons pognent. S'ils pognent, allez en prison.
Véritable nourriture spirituelle, le cochon trouve sa place dans la majorité des cultures où les diverses symboliques qui lui sont attribuées restent très manichéennes.
Dans la mythologie grecque, on l'associe à Déméter, déesse de la fécondité et de l'agriculture. Et l'on raconte même que Zeus aurait été nourri par une truie qui lui aurait généreusement offert de son lait.
Chez les Romains, il devient l'attribut du dieu Hésus, tandis que les Égyptiens lui prêtent une image double, associée à la fécondité, mais aussi à la malfaisance. Et à cet égard, les porchers étaient strictement interdits d'entrer dans les temples.
Et justement, le cochon étant interdit par l'islam, on peut affirmer que cela explique en grande partie le faible développement de cette religion en Asie, où le porc est un aliment très apprécié.
La popularité du cochon dans ces régions se traduit également par sa présence dans les croyances des civilisations asiatiques. Et en effet, pendant que les Tibétains le vénèrent et le placent au centre de la roue de l'existence comme symbole de l'origine de toute chose, le cochon, lui, devient un signe astrologique en Chine, ce qui révèle de son importance.
Et on lui associe un certain nombre de valeurs, telles que la loyauté, la sensibilité, la non-violence, mais également la soif de connaissance et l'obstination. Les Vietnamiens en font le symbole de l'abondance.
Enfin, il est cité comme le compagnon de Saint Antoine chez les chrétiens, mais il évoque dans notre culture judéo-chrétienne plutôt l'ignorance. Souvenez-vous, Jackie, de la parabole évangélique des perles jetées aux pourceaux, qui signifie
que des vérités spirituelles sont parfois révélées à ceux qui n'en sont pas dignes, en tout cas pas dignes de les recevoir ou incapables de les comprendre. Dans la légende grecque, Circé, la magicienne, avait coutume de métamorphoser en porc les hommes qui l'importunaient, qui se faisaient un peu pressants, vous l'aurez compris, pour manifester leur amour à son égard.
Eh oui, le hashtag balance ton porc avant l'heure.
Nous le voyons, le cochon a traversé le temps et l'espace et il a inspiré les hommes aux quatre coins du monde.
Les chats vous regardent avec dédain, les chiens, vénération. Les seuls qui vous regardent comme des égaux, c'est les cochons. Peau rose et peu de poils, parfois la queue en tire-bouchon. C'est vrai qu'on leur ressemble à ces cochons. Oui, mais à la différence du cochon, tout n'est pas bon dans l'homme, tout n'est pas bon. Oui, mais à la différence du cochon, tout n'est pas bon dans l'homme, tout n'est pas bon. Quand Jeanneton sur son chemin croise de beaux garçons, elle pose sa faucille et taille taille de jolis joues. La pratique est plaisante et quelle morale en tire-t-on? Pardi que les femmes aiment bien les cochons. Oui, mais à la différence du cochon, tout n'est pas bon dans l'homme, tout n'est pas bon. Oui, mais à la différence du cochon, tout n'est pas bon dans l'homme, tout n'est pas bon. Nous, on n'est pas du genre à se goinfrer comme des gloutons. Nous, on n'est pas des gens à se vautrer dans la merde, oh non. Mais le cochon nous observe et ne se fait pas d'illusions. Lui, il ne nous prend pas pour des jambons. Oui, car à la différence du cochon, tout n'est pas bon dans l'homme, tout n'est pas bon, tout n'est pas bon. Oui, car à la différence du cochon, tout n'est pas bon dans l'homme, tout n'est pas bon. Oui, car à la différence du cochon, tout n'est pas bon dans l'homme, tout n'est pas bon. Oui, car à la différence du cochon, tout n'est pas bon dans l'homme, tout n'est pas bon.
Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon,
c'est bon.
La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon,
c'est bon.
Désormais je veux chanter le cochon, le pâté et le saucisson,
bon.
Répétons sur ces airs polissons, qui c'est qui est bon, c'est le cochon,
c'est bon.
Je pourrais dire bien des choses sur son talent, il a la couleur des roses sans leur piquant. Et puis quand on a terminé les bons morceaux, reste de quoi faire des souliers et des pinceaux.
Et ça c'est beau.
C'est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon.
C'est bon, c'est bon,
c'est bon.
C'est bon,
c'est bon, c'est bon.
La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon.
C'est bon, c'est bon,
c'est bon.
C'est bon, c'est bon, c'est bon.
Désormais je veux chanter le cochon, le pâté et le saucisson. Répétons sur cet air polisson.
Qui c'est
qui est bon, c'est le cochon,
c'est bon.
En ces temps de régime allégé, la résistance passe par le gobage effréné, driette du Mans. C'est une drogue, une friandise, à un tel point qu'on en planque dans les valises, comme Jean Gabin.
C'est bien.
Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon.
C'est bon, c'est bon, c'est bon,
c'est bon.
la rate des rognons, la queue en tire-bouchon.
C'est bon,
c'est bon. Désormais je veux chanter le cochon,
la, 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 la.
Le pâté, le saucisson, répétons sur cet air polisson. Qui c'est qui est bon, c'est le cochon, c'est bon.
It is good.
Le cochon est tellement sage qu'en son honneur, je vous délivre un message qui vient du cœur. Battons-nous pour les droits de l'homme avec raison, puisqu'on dit souvent que les hommes sont des cochons. 2, 3, 1, 2.
Tout est bon dans le cochon, du gros jusqu'au charbon.
C'est bon,
c'est bon, c'est bon.
La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon. C'est bon.
Désormais je veux chanter le cochon,
le pâté, le saucisson. Répétons sur cette terre polisson.
C'est bon.
Et c'est bon, c'est le cochon, c'est bon.
Grognon, mais familier, comme si nous les avions gardés ensemble, mon cher Philippe, ces cochons qui nous motivent aujourd'hui dans le pochette surprise.
Et qui ont été un mets très apprécié des banquets durant l'Antiquité par les Romains, les Grecs et les Gaulois. Le cochon est très consommé par les intellectuels de l'époque qui se plaisent à en vanter les bienfaits.
D'Aristophane à Caton, en passant par Pline et Homère, on retrouve l'animal dans les écrits des plus illustres poètes antiques. La simplicité d'élevage du cochon en fera au Moyen-Âge l'animal le plus consommé devant le mouton et devant le bœuf.
Vauban, ministre de Louis XIV, voit dans l'élevage du cochon un moyen de lutter contre la famine. Il observe que cet animal est d'une nourriture si aisée que chacun peut en élever un. Un siècle plus tard, grâce à la diffusion de la pomme de terre dont on le nourrit abondamment, l'élevage de porc français est devenu le plus dynamique d'Europe.
Par ailleurs, comme l'explique Annette Pourra à cette époque, rien ne se perd dans le cochon. Tout est découpé, tout est haché, apprêté, salé, dans la journée même. Des meilleurs morceaux, au moins bons. D'ailleurs, même sa vessie est utilisée, soufflée, séchée. Elle servait à conserver le tabac.
On utilisait également la graisse de porc ou le saindoux pour confectionner une pommade contre le mal de dents. Ou encore, on en faisait des savonnettes.
La peau du cochon est également utilisée de nos jours à la fabrication de vêtements, de doublures de chaussures ou encore d'articles de maroquinerie, de pinceaux, de brosses.
Sans parler de son utilisation en médecine, puisque son anatomie est proche de la nôtre et son application en chirurgie cardiaque, en production d'insuline, d'héparine, qui est un anticoagulant, eh bien, cette application est très courante, de même que la taille de ses organes internes étant la même que celle des humains, eh bien, cela en fait aussi un bon candidat au xénogreffe.
Ben moi, je vous dirais que sa peau au cochon est également utilisée pour le traitement des grands brûlés. L'écrivain Georges Duhamel fait remarquer d'ailleurs que seul le cri du porc n'était pas récupéré.
Ce soir, la douleur est offrande. Quand elle est sincère, j'ai courbé. Le châssis est bancal et les chacals s'en arrangent. Eux seuls pensent que seul compte la perspective à regarder. Mais si le jeune d'œuf du mélange recouvre un temps le plafond de la chapelle et des damnés, alors il faudra s'agenouiller et attendre qu'il veuille bien faire corps en aquarelle renversée. Mais toi, ce soir, comme on rend la plage aux alliés, comme on s'échange des bombes d'images. Dans des classes aux psychés comprimées, le miel coule sur tes côtes, le porc est grillé, trop salé. On se regarde, oui, on change, alors on va devoir se décider. Mais l'on sait par avance que si l'on tranche au couteau suisse, tant qu'on est grand, tant qu'on est vrai, avant la lame sur nos cuisses, pour que le ciel soit rouge, orange, pour que ma gorge s'ouvre et prenne sa raclée. L'île sans l'errance, vierge, on n'y aura jamais pêché. Il reste les cartons bien étanches, ceux qu'on n'a jamais libérés. Je vais refermer chaque planche, annoter chaque volet. Je connais le solde et les géance. Pourtant j'ai l'impression qu'il n'y a rien à payer. Qu'il n'y a rien à payer. verre normand est bien trouble et l'eau du lac est périmée. Les chiens sont sages, mon souffle court ne pourra plus les appeler. Une fois passé la distance, le crescendo est passionné. De la rive aux corneilles sourdes, mon mal les aurait fécondés. Je reprends mon herbe, la route, nos épices et mon sang, et je me taille comme on taille les veines du nom des cendres en escalier.
Cochon, t'es aussi méchant que t'es con. Avec tes grandes oreilles, ta queue ouvre un bouteille.
Rien que d'y penser, ça me fait dégueuler. Tous les charcutiers qu'on espère pétrifier.
La viande de porc, c'est bon quand c'est mort. La viande de cochon, 5 jours en ballon. Ça gigote encore et ça pue autant que quand c'est vivant.
La viande de porc,
ça fait du boucan quand c'est mort et non quand c'est vivant.
Et c'est au Moyen-Âge qu'apparaît le métier de charcutier en 1476. Auparavant, c'était les bouchers qui transformaient et vendaient la chair de bœuf, de veau ou de mouton.
Au début, on ne permit aux charcutiers que de s'occuper de la viande cuite, c'est-à-dire des saucisses, des terrines, des pâtés ou encore du boudin. Le charcutier était très apprécié des pauvres gens qui n'avaient pas de feu, justement, pour faire cuire leur viande.
Et en 1513, les saucisseurs charcutiers obtinrent enfin le monopole de la chair de porc, cuite ou crue, et qu'ils cuisinaient également les langues de bœuf et de mouton.
Voilà, c'est pas pour vous, ça.
Non, j'aime pas les langues. J'aime bien les langues vivantes, mais pas les langues mortes.
Les apprentis charcutiers. Les apprentis charcutiers, quand ils vont à l'école, avec leurs cheveux courts et leur costard cravate, vont fumer en cachette pour oublier qu'un jour, ils seront charcutiers. Chaussettes, comme d'autres montent le Nil. Pourtant ils iraient bien revoir les crocodiles. Et le capitaine Crochet, et même la fée Clochette. Pourtant si tout va bien, ils seront charcutiers. J'espère qu'il survivra au milieu des saucisses, car son destin à lui, c'était d'être charcutier.
Le cochon dans Pochette Surprise aujourd'hui, le porc, le porcelet, le cochon sauvage, noir ou rose. Et à propos, Philippe, le cochon d'Inde, est-ce que c'est un cochon ?
Ah, question cruciale s'il en est, puisque le cochon d'Inde, vous le savez, est un rongeur et il nous vient d'Amérique du Sud, donc apparemment, aucun rapport avec le cochon.
Alors pourquoi ce nom ?
Eh bien, l'hypothèse qui prévaut aujourd'hui de cette bizarrerie, car... Il faut bien l'avouer, c'est très bizarre d'avoir mis sur un plan d'égalité linguistique ces deux animaux. Et ce serait notre ami Christophe Colomb qui aurait baptisé ce petit rongeur du nom de cochon en raison et de ses petits cris et de son petit corps semblable à celui du cochon. Et se croyant débarqué en Inde, eh bien c'est QFD. Nous n'en saurons guère plus, mon petit Jackie, pour assouvir votre soif de connaissance.
Et oui, j'ajouterais également qu'en français, on l'appelle cobaye, et que ce mot de cobaye vient du Guarani cabiaye.
En tous les cas, leur seul point commun aux cochons d'Inde et aux cochons, c'est qu'ils constituent une excellente nourriture. C'est un mets de choix en Amérique latine. Figurez-vous qu'on en consomme, rien qu'au Pérou, 22 millions par an. Alors, il paraît que c'est très gras, très protéiné, et que ça ressemble, que la chair ressemble un petit peu à celle du lapin. Alors, ça vous plairait, ça ?
Je n'aime pas le lapin.
Toujours pas.
Je n'aime toujours pas le lapin. Vous le saviez avant l'émission.
Ah, il me semblait que vous aviez des problèmes avec les lapins.
Vous connaissez la porcelaine, Philippe ?
Ah bah oui, j'aime bien la porcelaine.
Est-ce que vous saviez que le mot porcelaine vient du mot porc ?
Ah bah on en apprend des choses, dites-nous un petit peu plus.
Bah, à l'origine, porcelana, je ne sais pas prononcer moi, l'italien, c'est pas mon truc, c'est porcelana qu'on dit ?
Oui, porcelana.
À l'origine, oh là là, l'accent tonique, c'est beau. Redites.
Porcelana.
En Italie, désigné est un coquillage translucide à la surface brillante, et ce en raison de sa similitude avec le ventre d'une truie, qui en italien se dit... Porcella. Et l'on a donc désigné la céramique, la porcelaine, en raison de cette ressemblance. Et de l'Angleterre à l'Allemagne, en passant par le croate ou le finnois, toutes les langues européennes ont repris ce terme issu du mot porc.
Eh bien, nous écoutons un été de porcelaine, ça s'imposait, Mort Schumann.
Jouer à leur âge. toiture, ma fenêtre a un œil de carton. Les poules habitent dans ma voiture, le jardin est à l'abandon. Je vais me retrousser les manches et donner un bon coup de torchon. La casserole a perdu son manche, je vais la mettre, voyons, voyons, dans la cabane de mon cochon. Qu'est-ce qu'on peut faire d'une vieille baignoire dont on a perdu le bouchon? Ça prend de la place dans le manoir, je vais la mettre dans la cabane de mon cochon. Le grand plumard à baldaquin pour les fois où nous y couchons. Autant faire plaisir à quelqu'un, je vais le mettre dans la cabane de mon cochon. Et le vélo d'appartement, ça prend de la place dans le donjon. Je n'en fais plus très honnêtement, je vais le mettre dans la cabane de mon cochon. Tout est retourné à la nature, je ne me rase plus, j'ai les cheveux longs. Une ficelle me tient lieu de ceinture, ma barbe se prend dans mon violon. De toute façon, moi j'en ai marre de ce violon, alors changeons. Je vais le jeter dans la mare, ou bien le mettre dans la cabane de mon cochon. Un paysage avec une route et des montagnes à l'horizon. Qu'allons-nous faire de cette croûte? Je vais la mettre dans la cabane de mon cochon. Je n'en veux plus de la télé, je la mets dans le poulailler. Finalement, après réflexion, je vais la mettre dans la cabane de mon cochon. Et tout le reste qui n'en veut, ni moi, je dis tranchons. Je vais pas tout jeter au feu, je vais tout mettre dans la cabane de mon cochon. Je ne reconnais plus la maison, les pas résonnent, car elle est vide. Les sols sont nus, les murs les vides, ça procure une drôle d'impression. Ça donne envie de s'en aller avec ses draps, son polochon. Je crois que je vais aller m'installer dans la cabane de mon cochon. Qu'est-ce qu'on est bien dans la cabane de son cochon? Qu'est-ce qu'on est bien dans la cabane de son cochon? Qu'est-ce que je suis bien dans la cabane de mon cochon.
Thomas Fersen pour évoquer à présent le cochon dans la littérature avec cette célébrissime histoire des trois petits cochons, un conte traditionnel que tout le monde connaît et qui date du XVIIIe siècle.
Mais qui a été rendu célèbre par Walt Disney, bien sûr, en 1933. A noter que dans les versions originales, le loup dévore les deux premiers cochons après avoir détruit leur cabane.
Mais chez Disney, vous le savez, ils survivent et se réfugient dans la maison en briques du dernier petit cochon et réussissent à plonger le loup dans la marmite bouillante.
Bruno Bettelheim, célèbre psychanalyste, a analysé les contes de fées. Il a déduit que les enfants ne peuvent pas toujours agir dans la vie selon le principe de plaisir, comme les deux premiers cochons qui ne pensent qu'à s'amuser.
La réalité s'impose et impose à faire des choix, parfois bons, parfois mauvais.
Et ce fermier vietnamien a peut-être fait le bon choix quand il a eu l'idée de faire écouter de la musique classique à ses porcs, Philippe.
Eh oui, à ses porcs, par la force des choses, car en réalité, c'est à ses ouvriers que les concertos et autres symphonies de Schubert, de Mozart ou encore de Beethoven étaient destinés. Des dizaines d'ouvriers qui géraient quelque 3000 porcs.
Et arriva ce qu'il arriva. Le patron constata que les cochons mangeaient plus, qu'ils grossissaient plus. Il en déduisit qu'ils réagissaient à la musique classique.
Eh oui, je vous l'ai toujours dit, le classique a des vertus insoupçonnées qui vont bien au-delà du plaisir du mélomane.
L'histoire ne dit pas toutefois si les ouvriers ont eux aussi plus mangé et grossi.
Ah ben oui.
Trois petits cochons qui s'en allaient. Petit cochon de lait. Le premier dit, c'est ici que je fais ma maison, puis je vais la faire en carton. grand méchant loup qui passait. Il était méchant pas à peu près. Il dit, hey mon cochon, regarde bien ta maison. Pour le blanc, pour le voir, pour le blanc à terre. Oh non, maman. Les deux petits cochons qui restaient. Y'en a un qui dit, moi je fais ma maison là, puis je vais la faire en bois. Le grand méchant loup qui les suivait aimait bien le trou qu'il leur donnait. Il dit, hey mon cochon, regarde bien ta maison. Voilà blanc, voilà blanc, voilà blanc, voilà blanc. Oh non maman. Oh non, mama, j'ai perdu ma maison. Le dernier cochon réfléchissait à tout ce qui leur arrivait. Il dit, je vais faire un bloc en béton, puis louer des chambres aux autres cochons. Le grand méchant loup qui s'essoufflait dit 20% pis je te sac la paix. Ce qui prouve en vie quand t'as du bacon, faut pas le blanc, faut pas le noir, faut pas le brrrr, y'a des airs. Oh yeah, mama. Oh yeah, mama. Oh yeah, mama. Veillez ma maison.
Le cochon dans Pochette Surprise sur RVR, le cochon dont Tolstoï disait qu'il était en l'homme, tout comme Dieu était aussi en l'homme.
Un animal qui a de grands points communs avec l'humain, un animal aux multiples facettes.
Un animal porte-bonheur également, Jackie.
Oui, au début du XXe siècle, on gardait souvent à bord des navires des cochons vivants pour permettre à l'équipage d'avoir de la nourriture fraîche en réserve.
Et en ce mois de novembre 1914, un jeune cochon se trouvait à bord du Dresden. Le Dresden, c'était un bateau de la marine impériale allemande qui, au large du Chili, faisait la guerre lors de la bataille de Coronel. Et un mois plus tard, il était dans les Malouines.
Les Allemands perdirent la deuxième bataille et ils parvinrent à se cacher dans des bateaux britanniques dans la baie de Cumberland vers le Chili, au large d'ailleurs de ce qui est considéré comme l'île de Robinson Crusoe.
Mais c'était sans compter sur la ténacité des navires britanniques qui retrouvèrent la trace des Allemands qui, dépités, furent contraints de couler leur bateau et bien sûr le cochon avec, pauvre bête.
Le bateau coula, on raconte, mais le cochon, lui, nagea et à la surprise des Anglais, il rejoignit leur navire. Un des marins du Glasgow se jeta à l'eau et il nagea jusqu'au cochon pour le sauver, non sans mal.
Et il devint tout naturellement le cochon, la mascotte de l'équipage anglais, et il fut baptisé Tirpitz, du nom de l'amiral allemand. Il regagna l'Angleterre un an après, sain et sauf, avec tout l'équipage. Et il finit sa vie à l'école navale de Portsmouth 4 ans après.
Quelle belle carrière! Et si vous désirez voir des cochons aller à la rencontre de touristes comme des dauphins, bien c'est possible dans la mer des Caraïbes, aux Bahamas, vers l'île de Big Major.
Et oui, et bien ces cochons sont de très bons nageurs, ils viennent là à la rencontre des touristes pour quémander un peu de nourriture. Et ils ne sont nullement effrayés par la compagnie des hommes.
Il est déjà étonnant de les voir poster sur les plages de sable blanc et encore plus étonnant de les voir se diriger dans l'eau à contre-courant vers les bateaux.
Et pour terminer, j'ajouterai que le cochon tatoué sur le pied d'un marin symbolise donc une protection. Il protège le marin de la noyade, tout simplement.
petit boudin. Ce petit boudin. Ce petit boudin. C'est bon pour ce que j'ai, ça me fait du bien. Les petits boudins. C'est facile et ça n'engage à rien. Les petits boudins. Les petits boudins. Les petits boudins. Les petits boudins. Les petits boudins.
Bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi, moi qui étais le plus fier, moi, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire et Casanova n'osait pas. Et moi, moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi sous que moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des Trois Faisans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre de Casanova. Et moi, moi, moi qui suis resté le plus fier, moi, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalent, de jeunes peignes-culs nous montrent leur derrière, en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient...
On le voit, il y a toujours eu dans l'histoire un mélange d'attrait et de rejet à l'égard du cochon.
Et selon l'écrivain médiéviste Michel Pastoureau, cela viendrait de son cousinage biologique trop grand avec l'homme, notamment au niveau de sa morphologie interne, nous en avons parlé tout à l'heure.
Tour à tour sacré, consacré, puis banni, le cochon qui fourrage avec son groin dans le sol, rappelant qu'il est le seul à nous trouver des truffes, eh bien c'est un signe symbolique qu'il ne s'intéresse pas au ciel.
Et malgré tous ces anathèmes sur sa lubricité, rappelons encore qu'il est un des animaux à pratiquer l'acte sexuel le plus longtemps, il est très populaire chez les enfants dans les contes et les légendes.
Le cochon, oui, c'est vrai, suscite aussi de la sympathie. Pendant des siècles et des siècles, il faut savoir qu'il a été très présent dans la vie quotidienne et beaucoup de familles n'avaient pas d'autre animal qu'un cochon.
Et toujours, selon Michel Pastoureau, justement, cette proximité, c'est peut-être trop, presque trop. Et du coup, cet élan de sympathie s'est accompagné au fil du temps d'un mouvement de rejet.
En tous les cas, nous ne prendrons pas parti dans ce débat porcin. Nous remercions tous les cochons de nous avoir permis de réaliser cette émission dans la plus grande parfaite propreté. Et nous vous invitons bien sûr à la réécouter, etc.
En podcast, sur le site de la radio,
etc.
RVR Radio, RVRradio.fr.
Bye bye.
À la semaine prochaine.